sisters, my hands, my voice, my tribe, my sisters, my choice, my choice. Vous écoutez Micro Déconstruction, l'émission qui vise à titiller les stéréotypes de genre sur Radio U 101.1 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette seconde émission de Micro-Déconstruction qui a pour objectif de déconstruire les normes sociales dans lesquelles notre société nous a enfermés. Aujourd'hui, j'accueille Margot, infirmière en psy depuis 3 ans et demi, en métropole et à La Réunion, dont elle rentre à peine. Nous allons aborder ensemble différentes questions, à savoir pourquoi les 70% des Français qui vont voir un psy sont des femmes, leurs différents rapports face aux soins et aux soignants, et nous profiterons également de l'expérience de Margot pour aborder sa perception des rapports à la thérapie à La Réunion, où il ne faut pas seulement considérer les inégalités de genre, mais également les inégalités raciales fortement ancrées sur l'île. Margot, bonjour, ravie de t'accueillir à ce micro. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, notamment concernant ton parcours pro et en quoi participer à une émission féministe au vu de ton expérience te semble pertinent ?
Alors bonjour à tous, donc je suis Margot, j'ai 27 ans, j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière en 2021, j'ai ensuite travaillé du coup en psychiatrie à Nantes, notamment avec des personnes qui souffraient de troubles bipolaires, notamment des adultes, j'ai ensuite travaillé en psychiatrie mais avec des jeunes adultes à La Réunion. Et je suis revenue du coup en métropole il y a 3 mois et j'ai commencé à travailler dans un service fermé où on parle de soins sous contrainte avec des adultes.
Ok, très clair. Merci pour cette présentation. Avant de commencer, afin d'amorcer l'angle qui va suivre, je vais vous faire écouter une chanson que j'écoute en boucle en ce moment qui est « Folle » d'Isaiah. Vous écoutez Micro Déconstruction sur Radio U 101.fm. Nous allons donc démarrer cette émission tout de suite par la première partie, à savoir pourquoi les hommes vont moins chez le psy que les femmes. Comme je l'ai indiqué en début d'émission, 70% des personnes qui vont voir un psy en France sont des femmes. On pourrait donc se dire rapidement, c'est normal, les femmes sont plus fragiles. J'ai donc fait une seconde recherche qui a confirmé mon sentiment. Si les femmes vont plus voir un psy parce qu'elles sont plus fragiles, elles devraient logiquement être dans la même proportion celles qui tentent ou réussissent le plus à suicider, non ? Eh bien non. Les hommes sont 3 fois plus concernés par le suicide que les femmes. Dans ce cas-là, pourquoi les femmes vont-elles plus consulter ? Selon moi, 2 raisons. Le mythe de la virilité, nous en avons parlé dans le premier épisode de Micro-Déconstruction. Ce mythe, intrinsèque à la société patriarcale, fait croire aux hommes que seuls les hommes virils sont de vrais hommes. mythe sur lequel sortent d'ailleurs les masculinistes, et qui leur fait croire qu'ils ne doivent pas être vulnérables parce que pleurer, c'est un truc de gonzesse. Ouais, et ben Jean-Mich, si t'avais versé quelques larmes, t'aurais peut-être évité un drame. Parce que c'est aussi à mettre en lien avec le coût de la virilité, dont on avait également parlé lors de la première émission. Il s'agit d'un essai de Lucie Pétavin qui a documenté le coût de la violence masculine. Entre 85 et 96% des viols, meurtres, accidents mortels sont du fait des hommes. Si les Jean-Mich admettaient que leurs accès de colère n'étaient pas normaux et que ça vaudrait peut-être le coup d'évacuer les traumatismes avec un psy, ça pourrait peut-être commencer à bouger. Deuxième raison pour laquelle les femmes vont plus voir un psy, eh ben ça, c'est en lien avec la première, leurs maris n'y vont pas. Au motif de « je suis un vrai mec, fort et viril, je protège ma femme, mes enfants, etc. » Eh ben, ta femme, si tu lui imposes la charge mentale d'admettre ses vulnérabilités, et les tiennes chez un psy. Donc merci Jean-Mich, voilà les conséquences de ta virilité. Bon, je pense que le sujet est assez bien introduit sur cette première partie, je vais donc passer la parole à Margot. Avant même de parler d'ailleurs de ton emploi, Margot, tu es une jeune femme de 27 ans, très entourée d'hommes et de femmes. Est-ce que dans ton entourage, tu constates déjà une différence ? À savoir, est-ce que tu vois dans ton entourage cette tendance plus naturelle chez les femmes à aller se faire aider, accompagner par un psychologue ?
Oui, bah effectivement, moi, je dirais que depuis le lycée, c'est vraiment là où j'ai commencé à discuter de santé mentale avec mes pères. Et quand je dis mes pères, c'était mes amis au féminin. Là où il y a une facilité à exprimer ses émotions, son mal-être, où la vulnérabilité n'est pas vue comme quelque chose de tabou, mais au contraire comme quelque chose qu'il est important de prendre en compte. Donc dès le début, ça a été quelque chose d'assez féminin, en fait. Là, on n'en parlait pas du tout avec les hommes. Avec les femmes, c'était beaucoup plus simple. Et en fait, ça a continué tout le long, que ce soit à la fac, que ce soit après, dans mes liens familiaux, mes liens amicaux, ça a toujours été plus présent chez la femme. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une introspection qui se fait chez la femme.
Ok. Dans ton entourage, du coup, tu n'as pas d'hommes qui...
J'ai eu des hommes qui avaient des problèmes de santé mentale.
Ouais.
Néanmoins, ça faisait partie de quelque chose de tabou. Et moi, si je vois par exemple dans ma famille... En termes de santé mentale, on a plus ou moins eu des choses qui sont faites au niveau héréditaire, du transgénérationnel. Et en fait, là où il était beaucoup plus simple d'en parler avec des femmes, c'était beaucoup plus compliqué d'en parler avec les hommes. Parce qu'il y avait vraiment, encore une fois, ce tabou.
D'accord.
Ouais.
Donc ce que tu veux dire, c'est que ouais, toi, tu pouvais constater des troubles psychiques, mais par contre, en parler et l'admettre, ça commençait à être compliqué déjà.
Exactement. Et du coup, c'était inconcevable de parler de thérapie, par exemple, avec certains hommes de ma famille, là où il était beaucoup plus simple d'en parler avec les femmes de ma famille.
Ok, très clair. En même temps, c'est un constat, je pense, qu'on peut toutes faire autour de nous. Maintenant, on va partir un petit peu sur le volet professionnel. Est-ce que, du coup, si tu perçois, au moins dans tes premières expériences professionnelles, cette différence dans la recherche d'accès aux soins entre les hommes et les femmes ?
Bah, effectivement, moi, en termes de patientèle, en psychiatrie, il y a toujours eu quand même plus de femmes que d'hommes qui étaient hospitalisées. Et je trouvais que la prise en charge de la patiente se faisait bien plutôt que la prise en charge du patient. Parce que, justement, peut-être parce que c'était pas tabou pour eux, les femmes se faisaient suivre bien plus tôt. Okay. Là où le degré de sévérité de la pathologie était plus important chez l'homme. Peut-être parce que la prise en charge avait été faite un petit peu trop tard.
Oui, parce qu'effectivement, sur ton premier emploi à Lyon, justement, tu traitais de troubles bipolaires, principalement. Alors, ce n'est pas forcément les pathologies les plus graves que celles que tu traites aujourd'hui à l'hôpital. Donc aujourd'hui, là, tu es sur des pathologies un peu plus sévères. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ?
Eh ben, moi, là, actuellement, je travaille dans un service qu'on dit « service fermé ». Et en termes de modalités d'hospitalisation, de prise en charge, on a des patients qui sont hospitalisés en soins sous contrainte. C'est-à-dire qu'on les prive de la liberté en fait, de choisir s'ils doivent ou non et s'ils peuvent ou non se faire hospitaliser. On ne leur laisse pas le choix pendant un moment. C'est ensuite réévalué par le juge des libertés afin de les mettre en sécurité d'eux-mêmes ou de mettre les citoyens en sécurité.
D'accord.
Ouais.
Et sur tes patients actuels, est-ce que tu pourrais nous donner la proportion homme-femme ?
Eh bien, pour le coup, là, c'est contraire à ce que j'ai pu voir avant, il y a plus d'hommes que de femmes.
D'accord. Donc, ouais. C'est ta première expérience où tu fais plus de soins
aux
hommes, et sachant que c'est ton expérience où les pathologies sont les plus sévères.
Exactement.
Très intéressant. Et au-delà du fait que les femmes vont plus et plus tôt se faire soigner, est-ce que tu constates un rapport différent une fois qu'ils sont face aux soignants, face à toi, face à leur psy, entre les hommes et les femmes ?
Eh bien, je dirais que là aussi, c'est plutôt en termes de degré de l'avancée de la pathologie. On parle beaucoup de patients psychotiques, et notamment chez les hommes, chez qui il peut y avoir une décompensation à plus haut risque. Ça reste chez les hommes.
Alors, est-ce que tu pourrais expliquer le terme décompensation ?
Décompensation psychotique, c'est quand il y a quelque chose qui se passe au niveau interne et qui fait que le patient commence à déclarer des symptômes d'une maladie psychotique. Et là, par exemple, je vais prendre l'exemple de la schizophrénie. Par exemple, demain, vous vous réveillez et vous avez votre conjoint qui commence à parler tout seul, qui visiblement voit des choses que vous ne voyez pas, qui commence à se sentir persécuté. Là, on peut dire qu'il y a un problème. Cet homme a besoin d'être hospitalisé. Pourquoi ? Parce qu'il a décompensé. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé comme ça, un clic, qui a fait que du coup, il est parti vers la schizophrénie.
Ouais, c'est comme un switch,
brutal.
Quoi.
Exactement, ouais, c'est un switch direct.
Oui, ce n'est pas du tout quelque chose de progressif, comme quand tu commences à être un peu déprimé, rentrer, enfin, petit à petit, t'enfermer, c'est d'un coup.
C'est plus rare. C'est possible, mais c'est plus rare.
Ok.
Ouais.
Et ça, c'est ce que tu constates dans ton service particulièrement ?
Oui, là, actuellement, le service dans lequel je suis, c'est vrai que c'est beaucoup de patients qui, à un moment, pour la plupart, c'est quand même des ruptures de traitement. Donc, ça veut dire qu'ils arrêtent leur traitement. C'est un peu un cercle vicieux parce qu'ils se sentent mieux. Ils se disent, je n'ai plus besoin de traitement, j'arrête mon traitement. Et là, de nouveau, on peut dire qu'ils vrillent. Hein. En fait, il y a un switch et ils reprennent plein de symptômes qu'ils n'avaient plus grâce à la mise en place d'un traitement.
D'accord, donc même une fois qu'on est pris en charge, les hommes peuvent avoir tendance à être réfractaires à la poursuite d'un traitement.
Pour le coup, les hommes comme les femmes.
Okay.
C'est vraiment cette mise en place d'un traitement en long terme, sur le long cours, qui est important.
Ok, ouais. Très bien, très clair. Hyper intéressant, très bien. Et du coup, maintenant, si on parle, puisque c'est quand même le thème de l'émission, de genre et d'inégalité, il y a un petit sujet qu'il faudrait aborder, c'est le genre dans ton métier. Mm. Pour le coup, c'est quand même très connu, les métiers du care sont très majoritairement occupés par des femmes. Donc, est-ce que le fait d'être une femme dans ton métier d'infirmière psy, c'est un avantage, un inconvénient ?
Eh bien, je dirais que ça peut être les deux. Et ça dépend aussi de la tranche d'âge avec laquelle on travaille. Moi, je vois par exemple le service dans lequel je travaillais avant, j'étais avec des jeunes de 16 à 25 ans. Et dans la prise en charge des symptômes, ces patients, ils avaient besoin d'être parfois contenus, d'être maternés parce qu'il y avait eu des carences affectives qui étaient très fortes. Mmh. Et du coup, nous, en tant que femmes, on pouvait parfois avoir recours à un positionnement un peu maternant. Et c'était très important de l'avoir. Chose que mes confrères masculins ne pouvaient pas faire. C'était même parfois très compliqué, en fait, parce que j'ai beaucoup de patientes qui ont subi des agressions sexuelles. Et du coup, c'était compliqué pour elles de faire confiance à un homme. Voilà.
D'accord, donc, super intéressant.
Être femme à ce moment-là, c'était bien plus simple. Par contre, tu vois, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, dans le service dans lequel je suis, où pour le coup, il y a plus d'hommes dans le service dans lequel je suis que dans le service des jeunes adultes où il y avait plus de femmes, et bien là, c'est très important de souvent avoir au moins un homme dans l'équipe.
D'accord.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu dissuasif, là où il y a beaucoup de violence dans mon service. Parfois, avoir un homme qui hausse un peu le ton,
ouais,
ça peut faire redescendre un patient.
Okay.
Alors qu'il n'aura peut-être pas ce réflexe-là avec une femme qui hausse le ton.
D'accord,
ouais.
Ok, je vois. Oui, c'est effectivement la perception d'un homme qui s'énerve et la perception d'une femme qui s'énerve dans notre société.
Ouais.
C'est toujours un peu, c'est pas la même
chose.
C'est
ça, le patient, malgré tout, il aura plus peur d'un homme que d'une femme, en tant que soignant.
Ok.
Si demain, on doit avoir un rapport un peu de force avec un patient parce qu'il nécessite d'être contenu, eh bien, on fera en sorte d'appeler majoritairement, en priorité, les hommes des autres services avant que les femmes.
D'accord, très bien, hyper intéressant. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que sur certains services, c'est un atout d'être une femme.
Ouais.
Peut-être plus d'ailleurs parce qu'en fait, les violences subies et traumatiques sont factuellement, hein, c'est ouais. pas un jugement, mais plus causées par les hommes. Et que du coup, les patients doivent avoir ce réflexe un petit peu de méfiance aussi par rapport aux hommes. Par contre, dans un service où, mine de rien, tu rencontres beaucoup de violences aujourd'hui, la force physique, malgré tout, même si on cherche à combattre les a priori, ça reste quand même plus, en tout cas, en apparence, les hommes qui seront crédibles sur ce domaine-là. Quoi.
Et tu vois, c'est là où c'était intéressant, même dans le service dans lequel je travaillais avant avec les jeunes adultes, mes collègues donc masculins, ils avaient plus ce positionnement, enfin les patients les voyaient plus comme justement quelque chose d'un peu paternel. Parfois, quand on n'arrivait pas, on différait, on lâchait en fait la main à nos collègues masculins qui, eux, avaient un positionnement plus ferme et plus cadrant. En tout cas, le patient le voyait comme ça.
Ouais, donc ce que tu es en train de dire, c'est que... Eh, on rentre dans les clichés, c'est que l'autorité est masculine et que la maternité est féminine, quoi. Et ça
Exactement.
Se retrouve encore dans le soin, quoi.
Ouais.
Ok, très clair, très intéressant. Ça marche. Bah, maintenant qu'on a abordé justement la différence homme-femme dans ton métier, on va pouvoir passer à la seconde partie, puisqu'on va basculer sur justement ton expérience à La Réunion. En effet, là, tu rentres depuis quelques mois, de La Réunion. Donc, l'idée, c'est aussi de parler de ce rapport-là, enfin, du rapport à la psychothérapie entre les Réunionnais et les métropolitains, et puis de comprendre aussi l'impact fort de la colonisation sur l'île. Donc peut-être avant d'ailleurs d'attaquer dans le vif du sujet, on va quand même l'introduire pour remettre en contexte et faire comprendre un peu à nos auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire de l'île ce qui s'est passé. Donc l'île de La Réunion a été découverte au 15e siècle par les Portugais, mais c'est en 1663 que l'île qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon a été officiellement occupée par la France et ça deviendra sa première base militaire dans l'océan Indien. Sera créée l'année suivante la Compagnie des Indes qui aura pour mission l'administration et le peuplement de l'île. Les Français font dès le début du commerce d'esclaves indiens, malgaches et issus de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a peuplé la Réunion. Ce n'est que 3 siècles plus tard que l'esclavage est aboli en 1848, mais l'île de la Réunion est restée une colonie française jusqu'en 1946, ce qui est quand même très récent. Donc, Margot, avant d'aborder ton travail, peux-tu nous parler de ton expérience à La Réunion ? On vient de parler de l'histoire coloniale de La Réunion. En tant que métropolitaine, comment as-tu ressenti l'impact de cette histoire dans tes relations sociales ?
Eh bien... Je dirais que la première chose qui m'a surprise, c'était à quel point les Réunionnais sont ouverts d'esprit, n'ont pas d'a priori en fonction de ta couleur de peau, d'où tu viens, de ton histoire d'immigration. Parce que justement, en fait, c'est une terre qui part de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, et d'un métissage, d'un brassage culturel qui est incroyable. Chose que moi, je n'avais jamais rencontré. Alors que pourtant en France, on a quand même la chance d'avoir cette mixité, qui parfois peut être ressentie de manière négative, là où à La Réunion c'est complètement positif. Ça sera jamais mal interprété quand on te pose « Ah oh, mais tu sais de quelle origine ?»
Excellent. Ouais. Pourtant c'est contre-intuitif parce que tu vois, moi je me dis... Je suis née à La Réunion, je sais que forcément, si je suis réunionnaise, je suis forcément une descendante d'esclaves. Il n'y a pas le choix. On a été colonisés pendant trois siècles. Là, ça fait moins d'un siècle qu'on est, sur le papier en tout cas, plus colonisés. Il n'y a pas ce sentiment de revanche à l'égard du colon métropolitain ?
Eh bien... Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vivre ensemble. Après, il faut aussi être respectueux de l'île sur laquelle on arrive et du fait que les cultures sont différentes. Il y a une certaine forme d'adaptation qui doit être mise en place, mais qui est qui est normal quand on arrive dans un nouveau pays. Là où effectivement on peut ressentir ça, c'est que nous, métropolitains, donc personnes qui viennent de la métropole et qui arrivent à La Réunion, on est appelés des oreilles. Et en fait, le terme « oreilles », ça a un peu une connotation familière. Et pourquoi « oreilles » ? Deux choses. « Oreilles » parce que apparemment les colons, quand ils sont arrivés à La Réunion, coupaient les oreilles des esclaves en punition. Et il y a aussi « oreilles » parce que tu dois tendre l'oreille pour comprendre le créole, qui n'est pas ta langue
maternelle,
malgré le fait que La Réunion est la France. Voilà.
Ok. Ouais, donc tu ressens quand même que l'histoire coloniale est quand même, reste quand même présente. Ok, ok, très clair. Et même chose par rapport à ton métier, du coup, est-ce que tu constates des inégalités avant même de parler des patients sur l'occupation dans un métier, par exemple, comme infirmière psy? Est-ce qu'il va y avoir autant de réunionnais que de métropolitains?
Alors moi, qui travaillais dans une clinique privée, de ce que j'ai pu voir, la plupart de mes collègues, d'ailleurs en fait sur une équipe de 15, finalement on était quand même 12 venant de la métropole et 2 réunionnais.
Ah oui,
ouais.
Donc c'est énorme.
Ouais, même nos médecins ne venaient pas de La Réunion. Ouais.
Ok, okay. Donc les postes qui commencent à avoir entre guillemets un peu de responsabilité sont très, très, très majoritairement occupés par les métros, quoi. Et les postes, du coup, le plus occupés par les réunionnais, tu dirais que ce serait quel type de...
Eh bien, si moi, je prends l'exemple de ma clinique, c'est ASH, agent d'entretien, ceux qui s'occupent du service, de la cantine.
Ah ouais, un peu comme en France, sauf que là, en France, on va dire que c'est les minorités ethniques. Exactement. Sauf que là, c'est une minorité qui est majoritaire, en fait.
C'est ça. Ouais.
Donc, c'est OK, très, très intéressant. Donc, il y a quand même de fortes inégalités.
Oui, oui. Ouais. Et puis, comme je disais, y a aussi un point qui est important, c'est que, par exemple, pour parler de mon métier, les écoles d'infirmières à La Réunion sont toutes récentes. Avant, les personnes, donc notamment les Réunionnais qui voulaient être infirmiers, devaient partir en métropole pour pouvoir faire leurs études. Donc, c'était aussi ça la difficulté.
Ouais, on ne donnait pas la possibilité aux Réunionnais de se former alors que c'est la France.
Ouais, leur propre île, quoi.
Ouais.
C'est ça.
C'est-à-dire, ouais, il n'y avait pas de formation, ce qui permet en fait aux métros d'avoir une destination paradisiaque sur laquelle ils seront, qui vont trouver du job facilement parce que les locaux ne sont pas formés, quoi.
C'est ça.
Ok, très clair. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur tes missions, ton service à La Réunion, quel type de patients tu soignais?
Alors du coup, moi je travaillais avec des jeunes adultes de 16 à 25 ans, filles, garçons, et dans un service de soins libres, donc c'est-à-dire que les patients ils viennent à leur demande pour être pris en charge au niveau de leur santé mentale. Voilà, après, en fonction de ce qui est évalué, le patient, il reste entre un mois, parfois trois mois, six mois, en fonction de ce qui est possible pour lui. Souvent, les patients qui restaient quand même très longtemps, c'est parce qu'il y a des gros... les placements sociaux sont bouchés et que du coup, ils étaient obligés de rester dans la clinique parce qu'ils n'avaient pas... Enfin, ils avaient nulle part où aller.
D'accord.
Ce qui a été frappant, c'est que sur 15 patients... la plupart, en fait, c'était quand même des jeunes filles.
D'accord.
Et avec quelque chose que moi, je n'avais pas autant rencontré auparavant en France dans un service d'adultes, c'est avec des violences et des agressions sexuelles.
D'accord.
Ouais.
Ok. Quand tu parles de violences et agressions sexuelles, tu as effectivement déterminé que c'était majoritairement des jeunes filles.
Oui.
Est-ce que tu as constaté qu'il y avait une différence, sachant que là... Je crois, il me semble que la répartition de la population, c'est 50-50 métro et réunionnais. Est-ce que la proportion est égale sur les jeunes filles qui subissent des violences côté métro ou côté réunionnais?
Eh bien, tu vois, par exemple, si on parle de jeunes adultes, donc même d'adolescents, on va dire, parce que c'est des violences sexuelles avant 18 ans, on a un pourcentage de 6,6% pour La Réunion, là où pour les jeunes filles de France, c'est 4,6%.
Ok.
Donc, ouais. Et en termes de violence, par exemple, juste conjugale, c'est 15% de femmes à La Réunion contre 9% en France.
Ok. Ouais. Et pourtant, on est déjà pas mal sur ces chiffres-là en France métropolitaine. Donc, ouais, il y a quand même un écart entre la métropole et La Réunion qui peut être lié effectivement à la psychothérapie, aux conditions sociales. Enfin, il peut y avoir plein de facteurs, mais ok, très clair. Du coup, on a vu dans la première partie que justement les hommes, si on se concentre sur la métropole, mettent plus de temps à les consulter, ce qui explique très certainement le fait que leur pathologie, une fois détectée, soit plus grave. Est-ce que tu constates également une inégalité ? Pareil, bah là, on se focus sur le métro VS réunionnais, sur ces rapports-là, justement.
Tu veux dire entre dans l'accès aux soins ?
Ouais, exactement. Est-ce que par exemple tu constates une différence entre un métropolitain qui arrive et qui détecte un problème psychologique et un réunionnais d'origine sur l'île ? Est-ce que il y a une différence dans justement la perception de la psychothérapie ? Est-ce qu'ils vont facilement voir un psy ou faire des soins ?
Alors, je dirais que ce qui est très prégnant au sein de La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de croyances religieuses qui entrent en jeu.
D'accord.
Et en fait, donc, du coup, là, on parle, dans ces cas-là, d'ethnopsychiatrie. Hein. C'est vraiment adapter la santé mentale à la culture d'un pays, aux normes du pays. Et moi, ce que j'ai pu constater donc, à La Réunion, c'est que la religion est très présente. Ce qui fait que c'est compliqué, en fait, pour plein de gens d'admettre qu'il y a un mal-être induit à cause d'un trouble mental, parce que pour eux, exemple concret, moi j'ai eu par exemple des patientes dont toute la famille était persuadée qu'en fait c'était le diable qui la possédait, c'était le diable qui était en elle, ce qui faisait que en fait la solution n'était pas par exemple d'être hospitalisée ou d'être pris en charge au niveau psychiatrique, mais la solution c'était d'aller voir un exorciste à l'église.
D'accord.
Ouais. Okay. Moi, j'ai eu des patients qui demandaient des permissions le dimanche pour sortir, pour aller voir le prêtre, pour se faire exorciser.
Et ça, c'est OK ? Je veux dire, ça fait partie du coup de vos pratiques ?
Eh bien, je crois que c'est ça aussi, l'ethnopsychiatrie. C'est en fait, il faut, dans un rapport quand même assez sain, bien sûr, le but, c'est pas non plus qu'il y ait de la maltraitance, mais il faut... Faut accepter qu'en fait, si on va à l'encontre de toutes les croyances du patient, il n'y aura pas d'alliance thérapeutique. Et s'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, il n'y a pas de soins. Le but, c'est qu'il y ait un rapport de confiance entre le soignant et le soigné. Moi, finalement, qui ne suis pas croyante, qui est-ce que je suis pour lui dire c'est n'importe quoi quand c'est ça vrai. Passe de génération en génération, il y a quand même un respect de l'autre qui est primordial en fait dans le soin.
Mmh.
Et c'est aussi accepter ça. Alors, est-ce que moi, j'y vois une indication ? Bien sûr que non. Néanmoins, si ça fait du bien aux patients et que ce n'est pas délétère, jusqu'à où on va, en fait ?
Ouais, ok. En fait, tu n'imagines pas forcément que ça peut faire du bien pour la thérapie, l'acte en soi, mais tu dis que si tu le refuses, ça va détruire la thérapie puisqu'il n'aura pas confiance en toi, quoi.
C'est ça.
Ok.
Tu vois, au même titre que moi, je ne comprends pas les patients qui mettent du sel au bout de leur lit.
D'accord.
Mais quand elle m'explique en fait que c'est pour les préserver du mal et que c'est pour, tu vois, c'est une manière de les mettre en sécurité, que de mettre du sel, ça éloigne les mauvais esprits.
D'accord.
Pourquoi, moi, je vais lui demander de l'enlever, si ça la rassure, finalement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où, peu importe le comment, tant qu'elle est elle se sent dans sa safe place.
C'est ça.
Si ça peut l'aider, pourquoi pas, quoi.
Ouais.
Et t'as eu des fois, parfois, des injonctions entre guillemets religieuses qui pouvaient porter préjudice à ton accompagnement thérapeutique ou pas ?
Ce qui est très compliqué, c'est par exemple là pour les jeunes adultes qui étaient pris en charge, il y avait souvent la famille qui rentrait en compte parce que c'est important de les prendre en compte dans la prise en charge. Et c'est quand là les parents s'opposent à du soin parce que même eux sont persuadés que c'est pas des cachets qu'il faut, mais c'est un exorcisme, c'est aller chez... le tisaneur du coin, parce que les tisanes, c'est médicinal à La Réunion, c'est très important. Voilà.
Ouais, donc j'imagine qu'effectivement, si y a cet impact familial de la société, de la religion, il doit y avoir beaucoup de personnes qui vont faire appel à la religion avant de faire appel à la thérapie, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Donc, du coup, ce qui peut aussi retarder la prise en charge.
Ouais, ok.
Et par exemple, si on parle encore d'ethnopsychiatrie et des pratiques à La Réunion, il y a une très forte consommation de Zamal. Donc, le Zamal, c'est la weed pays, le cannabis pays de La Réunion.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en fument. C'est ancré, en fait, dans les mœurs, hein, que de fumer son petit joint de Zamal. Même dans les chansons réunionnaises, on parle de mon petit Zamal, quoi. C'est quelque chose qui est ancré. Mais ce qui fait que, du coup, on a des jeunes qui, de plus en plus tôt, vont consommer de la drogue. Et là où c'est compliqué, en fait, de les prendre en charge, c'est aussi les extraire d'un environnement où, par exemple, consommer de la drogue, c'est normalisé. Parce que ça fait partie de la culture.
Ok.
Ouais.
Ouais, et toi, t'arrives comme métro, infirmière, donc il y a une culture différente, et tu leur dis, bah, pour ta santé, c'est pas bien, et en fait, tu casses
Ok,
donc un peu délicat, quoi.
C'est ça.
Ok, ouais, hyper clair. Est-ce que tu vois, avant de passer à la conclusion, deux, trois autres trucs à rajouter, ou...
Ben oui, j'aimerais quand même rappeler que en termes de pauvreté, il y a quand même deux fois plus de pauvreté à La Réunion qu'en France.
D'accord.
Et alors moi, ce qui m'avait choquée quand je suis arrivée à La Réunion, c'est le nombre de personnes qui sont au chômage. Et par exemple, le chômage à La Réunion, il est de l'ordre de 17%, là où en France, il est de l'ordre de 7,3%.
Ouais, donc quasiment deux fois plus.
Ouais, ouais.
Ok, et pourtant, on a déjà l'impression d'avoir un problème d'emploi en métropole.
C'est ça.
Assez important.
Ouais, avec un coût de la vie qui est énorme, une prime de vie chère qui n'est pas forcément disponible de partout.
Ouais.
Pour revenir sur le métier du soin, en tant qu'infirmière dans le privé, on n'a pas le droit à cette prime. Là où, par exemple, dans le public, ils l'ont. Et du coup, c'est aussi ça. Hein. En général, qui dit pauvreté, dit aussi un retard de prise en charge au niveau, du coup, pour moi, psychiatrique. Et je pense que c'est important de le préciser aussi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème de perception de la psychothérapie parce que culturellement, il y a deux. Il y a le religieux et le rationnel. Pas le rationnel, c'est pas le bon terme, mais le religieux et le médical classique qui se confrontent. Et en plus de ça, il y a un problème social et même au-delà, ce que tu disais, un problème éducationnel puisque c'est récent qu'il y ait des écoles de formation pour infirmières.
Ouais.
À La Réunion, quoi.
C'est ça. J'espère qu'il y aura de plus en plus de structures qui vont être créées, en fait, au sein de La Réunion. Mais effectivement, ce qui est compliqué, c'est aussi de prendre en charge quand il y a une absence d'opportunité d'être pris en charge.
Ok. Ok, très clair. Eh ben, c'est une bonne conclusion sur ces deux constats d'inégalité qu'on a pu faire, homme vs femme et métropolitain vs réunionnais. Merci beaucoup, Margot.
Merci.
Pour conclure, donc, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est en fait qu'il s'agisse d'hommes qui souffrent des injonctions virilistes ou qu'il s'agisse des réunionnais qui, eux, souffrent des injonctions religieuses, mais aussi d'inégalités sociales et d'inégalités éducationnelles. Ces deux publics qui sont réfractaires à la psychothérapie sont également ceux qui sont atteints par des pathologies les plus lourdes du fait de leur prise en charge tardive. Cela a donc un impact sur le couple, sur la violence dans la société, sur la mise en danger de ses proches. Donc admettre sa vulnérabilité et accepter de se faire aider, surtout pour les hommes, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de courage. Ça nous fera gagner beaucoup plus de temps. Et pour conclure, je pense qu'il y a aussi une différence de génération entre la nôtre et celle de nos parents qui étaient aussi plus réfractaires à la thérapie, ce qui est un petit peu dommage parce que je pense que si nos parents avaient été voir des psys, nous, on ne serait pas obligés d'aller en voir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On vous souhaite une excellente journée sur Radio U101.fm. Et nous allons conclure cet épisode avec une chanson qui est parfaitement en lien avec le sujet. Il s'agit de Voldemort en thérapie.
Si Si Voldemort avait fait une thérapie, peut-être qu'il fêterait Noël avec Dumbledore et Harry. Aurait eu un prix Nobel en magie ou en chimie, porterait fièrement sa calvitie, égérie de cosmétiques devenant un modèle atypique. Confierait tous ses secrets à son psy, autopsie d'une âme troublée, bosserait dans l'humanité, verrait enfin la lumière sans prononcer l'humos. Voyage jusqu'au Laos, son chat sur ses genoux fait son houmous, se crée un monde de bisounours. Non, c'est pas la magie, c'est juste la thérapie. Le choix pour à parler, chez le psy il faut aller. C'est pas la magie, c'est juste la Si Voldemort avait fait une thérapie, il emmènerait Rogos qui raconterait sa vie dans des vlogs, ferait la une de Vogue comme l'influenceur de l'année. Bellatrix serait créatrice pour des équales ou cantatrices, ferait un livre qu'il nommerait Année à année avec mon passé, raconterait comment être heureux sans cheveux, mais s'il nomme sa coupe, la coupe de feu, invite à Gréto Raclette, réconforte Dobby quand il a le moral dans les chaussettes, aime observer les chouettes la nuit. Non, c'est pas la magie, c'est juste la thérapie. Le choix pour à parler, chez le psy il faut aller. C'est pas la magie, c'est juste la Abracadabra, plus d'Avada Kedavra. C'est pas la magie, c'est juste la thérapie. Santé mentale soignée et le tour est joué. C'est pas la magie, c'est juste la thérapie. Le cœur des tétraqueurs reprend cette chanson en cœur.